Il est 12h30 sur France Culture. Les informations présentées par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un remaniement du gouvernement attendu dans les prochaines heures. Le chef de l'État intervient ce soir à la télévision. Dernière précision avec Stéphane Robert. Au siège du Parti Socialiste, le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis reçoit les intellectuels qui avaient pris l'initiative de promouvoir l'idée d'une primaire à gauche. Bilan avec Anne Fockenberg. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon avait créé la surprise en annonçant sa candidature en 2017. Pour 2017, pour, dit-il, incarner la France insoumise et fière de l'être. La grande conférence de santé organisée par le gouvernement à Paris, Marisol Touraine dit entendre les inquiétudes des professionnels et souhaite faire évoluer les conditions d'exercer cette formation, suivie de cette rencontre avec Aurélie Kiffer. À l'étranger, la guerre en Syrie avec l'offensive des forces gouvernementales appuyées par les frappes russes qui privent d'accès maintenant à l'assistance humanitaire plus de 120 000 habitants de la province de Homs. Et pendant ce temps, à Munich, se tient une réunion entre les États-Unis et leurs alliés pour tenter de mettre un terme à cette guerre. Analyse de Valérie Crova dans la dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Eh bien, une émission entre sciences de l'humain et santé publique. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit Antoine, que Marisol Touraine ouvre la grande conférence de santé sur les conditions d'exercice de la médecine. Alors que samedi prochain, dans deux jours donc, France Culture vous invite à participer au forum L'année vue par les sciences. Le thème retenu cette année étant l'humain dans tous ses états. À deux jours de cette journée donc, nous avons eu envie à la Grande Table d'interroger le domaine lié à l'humain qui suscite le plus de fantasmes, la génétique. Et nous allons le faire en compagnie d'Arnold Munich qui vient de publier « Programmer mes libres, les malentendus de la génétique ».
Et la science, nous y restons pour commencer cette édition. Le monde scientifique retient en effet son souffle dans l'attente tout à l'heure d'une annonce sur les ondes gravitationnelles théorisées par Albert Einstein. Ont-elles ou non été détectées de façon directe? Ce serait la première fois. Einstein décrit la gravitation comme une déformation de l'espace. On le sait, les masses comme le Soleil par exemple courbe l'espace. Si les masses bougent et connaissent une accélération, eh bien ces déformations vont se déplacer et se propager à travers l'espace formant des ondes gravitationnelles. Élodie Forêt, bonjour.
Bonjour.
Alors comment aurait-on détecté ces ondes?
C'est un travail de titan qui remonte au début du XXe siècle. La théorie de la relativité, ça date quand même de 1915. Il faut dire que la tâche est compliquée. Pour qu'une onde gravitationnelle se produise, il faut d'abord des chocs très violents, genre la fusion de deux trous noirs ou l'explosion d'étoiles massives, c'est-à-dire 50 à 80 fois plus grosses que le Soleil. Ce choc va produire une onde qui va alors ressembler aux rides sur un étang quand on jette une pierre. Plus on est éloigné de l'impact, moins on perçoit la ride, elle s'amenuise au fur et à mesure. Quand cette onde gravitationnelle parvient jusqu'à la Terre, autant vous dire que ça ne provoque pas de séisme. C'est infime, impossible à ressentir pour vous et moi. Depuis les années 50, les scientifiques essaient donc de construire des instruments pour les capter, des sortes d'amplificateurs. Les derniers en date s'appellent LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie. Ils ont été conçus dans les années 90 et grandement améliorés ces derniers temps. Et c'est bien LIGO qui le premier aurait détecté une onde, provoquée sûrement par la fusion de deux trous noirs. LIGO, ce sont deux immenses tunnels de 4 km de long à l'intérieur des faisceaux laser, parfaitement synchronisés à l'entrée. À la sortie, ces faisceaux sont normalement toujours synchro, à moins qu'une onde passe par là et les déforme. Un bras peut alors s'allonger, l'autre rétrécir. C'est bien ce qui se serait passé. Alors vous allez me dire pourquoi c'est si important de détecter ces ondes? Eh bien tout simplement pour mieux comprendre notre univers. Grâce à cette nouvelle astronomie, l'astronomie gravitationnelle, on va enfin connaître l'intérieur des structures invisibles comme les fameux trous noirs. Ça nous permettra aussi de remonter au Big Bang qui le premier a dû générer ces fameuses ondes.
Élodie Forêt, merci. Vous parliez sous le contrôle de Michel Albert-Ganti qui est avec nous dans cette édition. Bonjour.
Bonjour.
Producteur de l'émission Sciences Publiques sur France Culture. On va les avoir, cette preuve aujourd'hui qu'on aurait bien décelé ces ondes, vous pensez?
Alors il faut attendre 16h30, c'est le grand rendez-vous qui est fixé pour une conférence internationale, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe.
Oui, donc apparemment il y a quand même un déploiement formel, voilà, qui laisse penser qu'il y a des choses importantes qui vont être annoncées.
Et des fuites qui ont précédé, et donc une perspective d'une vraie annonce cet après-midi.
Alors annonce sous quelle forme?
Sous la forme de ce résultat donc que l'on vient d'aborder, qui est un déplacement, une détection d'un signal qui aurait comme origine la propagation de ces ondes gravitationnelles. Alors là, elle serait produite par effectivement la fusion de deux trous noirs qui ont chacun 36 qui pèsent chacun à la fois 36 mètres solaires d'un côté, 29 de l'autre, et en fusionnant, ils créent un nouveau trou
ils
noir.
Ils ont fusionné quand ces trous noirs-là ?
Bah, je suppose que c'est il y a pas longtemps. Ça, ouais. Tout ça, on va avoir les détails cet après-midi. Et ce qui se passerait, c'est que ce qui se serait passé, c'est que la fusion de ces deux trous noirs, au lieu de faire la somme de ces deux masses, aurait une différence parce que il y aurait trois masses solaires qui seraient transformées en ondes gravitationnelles. Et c'est ces trois masses solaires transformées en ondes que l'on aurait détectées aux États-Unis et qui donc seraient la première preuve matérielle de l'existence d'ondes gravitationnelles prévues effectivement par Einstein. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est exactement il y a un siècle. Ouais. Donc ça fait un peu anniversaire, mais en fait, bon, ça peut quand même être exact. Et on va avoir les détails cet après-midi et ça va changer beaucoup de choses dans la physique.
En un mot, qu'est-ce que ça va bouleverser dans nos connaissances?
Alors c'est aussi important que la découverte du boson de Higgs ou du rayonnement fossile, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle valeur, un nouveau phénomène sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour découvrir effectivement des structures comme les trous noirs, analyser mieux les trous noirs et remonter jusqu'au Big Bang. Il faut se souvenir que lorsqu'on a découvert les ondes radio, le fameux rayonnement fossile, c'est grâce à cette découverte que l'on a pu créer cette théorie du Big Bang. Donc c'est quand même très important. Ça va pas changer notre vie quotidienne, mais il n'empêche que la gravitation reste un des plus gros mystères de la physique actuelle. Là, on parle de manifestation d'une théorie d'Einstein qui permet d'expliquer comment ça fonctionne. On ne sait pas exactement en quoi consiste la gravitation. C'est quand même un peu ennuyeux puisque nous y sommes soumis en permanence.
Ouais. Vous êtes sur le pont cet après-midi? Vous serez
on sera sur le pont pour suivre en direct l'annonce.
Merci beaucoup, Michel Alberganti. J'avais envie de demander à l'invité aussi de la dernière partie avec Arnold Munich, qui questionnera avec nous Arnold Munich. Jean-Claude Amezen, peut-être son avis sur ce que savent, bien que vous ne soyez pas évidemment physicien, mais ça fait résonner quelque chose en vous, cette découverte?
Ça résonne à plusieurs niveaux. Le premier, c'est la puissance en science qui est souvent négligée des démarches théoriques, de l'imagination, de Copernic à Newton, à Darwin, à Einstein. En fait, ce sont des conceptions nouvelles de contre-intuitif souvent, qui sont une nouvelle représentation du monde qui va mettre ensuite un certain temps à être validée. Mais découvrir ce qui a déjà été pensé comme possible ou découvrir en explorant, c'est très différent. Et donc je crois que on a souvent tendance à penser que la démarche scientifique consiste à observer et à interpréter. Elle consiste souvent à imaginer des mondes possibles et ensuite à mettre en œuvre ce qui permet
en général, ce sont les idées qui sont à l'origine et
les constructions théoriques.
Qu'elles expliquent peut-être davantage de choses qu'une simple observation.
Voilà. Et puis alors, le deuxième point qu'évoquait Michel Alberganti, c'est que quand même, il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la théorie de la gravitation. Quand Newton décrit la loi qui détermine les mouvements des planètes, des astres et des objets sur Terre, il y a quelque chose de profondément mystérieux dont Einstein va changer la nature, qui est que c'est une force qui s'exerce à distance, de manière instantanée, sans qu'il y ait rien de détectable entre les deux masses, qui exerce une attraction. Donc il y a quelque chose en plus de profondément mystérieux dans la mise en évidence et dans les modèles successifs qui ont présidé à son exploration.
Jean-Claude Amezen, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.
Alors, il n'est pas sûr que les ondes gravitationnelles aient une grande influence sur le remaniement attendu aujourd'hui, mais on compte sur leur capacité d'imagination, Antoine.
Voilà. Effectivement, peut-être qu'on peut prendre le terme gravitation au sens politique du terme. En effet, ça s'agite beaucoup en ce moment dans les couloirs à l'Assemblée et à l'Élysée. Remaniement du gouvernement attendu dans les toutes prochaines heures, en tout état de cause, avant cette intervention du chef de l'État dans les journaux de 20h de TF1 et de France 2. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Antoine.
Alors, il y a eu, on l'a vu hier, le départ du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour la présidence du Conseil constitutionnel qui a été acté donc hier. Il a donné ce départ le coup d'envoi de ce qui pourrait être, de ce qui est sans doute la dernière évolution majeure de l'équipe gouvernementale avant cette fameuse échéance présidentielle de 2017. Dernière carte, dit-on, donc entre les mains du président de la République. Il y a des rumeurs évidemment qui battent leur plein comme d'habitude. Qu'y a-t-il dans le jeu de François Hollande?
Eh bien, à première vue, l'équation n'est pas simple à résoudre. Partons du postulat que l'objectif principal du chef de l'État est de créer les conditions de sa réélection en 2017. Pour ça, Il avait jusqu'à hier deux armes potentiellement puissantes à sa disposition. La première, la réforme constitutionnelle, elle est censée faire l'unité nationale avec la droite face au terrorisme et permettrait ainsi de placer François Hollande dans la position du père protecteur de la nation, au-dessus des partis, garant de la sécurité des Français. Le problème est que même si elle a été adoptée à une large majorité hier par l'Assemblée, ce ne sera pas la même histoire avec le Sénat qui va la réécrire et cette réforme pourrait bien se révéler être un pétard mouillé. On verra ce qu'il en est dans quelques semaines. Reste donc cette autre arme à disposition du président, le remaniement. Avec quelle équipe va-t-il aborder la dernière ligne droite de son quinquennat ? La majorité est divisée, même la famille socialiste avec cette histoire de déchéance de la nationalité. François Hollande devrait donc chercher à élargir son assise politique. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'entrée des Verts au gouvernement. Mais ça, tant que Manuel Valls est Premier ministre, il ne faut pas y compter. Ou alors, ça ne peut être que des Verts dissidents, François de Rugy, Jean-Vincent Placé. Mais bon, on met des gens qui sont déjà dans la roue des socialistes, des Verts qui se sont en quelque sorte PRGisés. On ne voit pas bien quel peut en être le bénéfice politique. Le problème de François Hollande est que d'un côté, il ne peut pas piocher sur sa gauche avec une politique qui s'est progressivement droitisée. Même les frondeurs pourraient aujourd'hui lui claquer la porte au nez. Et puis de l'autre côté, il ne peut pas piocher sur sa droite non plus, puisqu'il a refusé les propositions de François Bayrou en 2012. Il est donc contraint de faire son choix au sein d'un petit cercle d'amis relativement restreint. Il ne peut pas se séparer de ses ministres les plus populaires qui constituent la jeune garde, Manuel Valls, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri. Il doit aussi conserver le PRG. Jean-Michel Baillet devrait donc remplacer Sylvia Pinel sur le départ. Et pour le reste, eh bien, il doit composer entre ceux qu'on appelle ses grognards, Michel Sapin, Jean-Yves Le Drian, Stéphane Le Foll, et puis ceux qu'on peut désigner comme les éléphants du PS, Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, pourquoi pas Martine Aubry. Mais au bout du compte, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Il ne faut s'attendre qu'à quelques ajustements techniques, puisqu'à un an de la présidentielle, aucune réforme majeure ne sera lancée, et la ligne politique ne va certainement pas évoluer.
Voilà, quelques heures donc à attendre, ça devrait être tout à fait possible. Merci beaucoup, Stéphane Robert.
Les dirigeants du Parti Socialiste veulent-ils vraiment d'une primaire à gauche. Avant-hier, la porte-parole du parti assurait à la presse que le PS était prêt à une primaire de la gauche du gouvernement allant du Parti communiste au socialiste sans la participation de Jean-Luc Mélenchon.
De toute façon, Jean-Luc Mélenchon donc a créé la surprise hier soir en annonçant sa candidature pour 2017, candidature pour incarner la France insoumise et fière de l'être. En ce moment, il y a quelques instants, en tout cas, la réunion s'est terminée, paraît-il, il y a quelques minutes seulement, au siège du PS rue de Solferino. Le premier secrétaire du parti, donc Jean-Christophe Cambadélis, recevait les intellectuels, le groupe de personnes qui s'étaient regroupées pour essayer de promouvoir cette primaire à gauche, notamment Thomas Piketty, Dominique Méda, qu'on avait reçu dans la grande table il y a quelques temps, Michel Wieworka, Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que le parti du président, c'est-à-dire à la fois, disons, Hollande et Cambadélis, sont partants véritablement, sincèrement, pour cette aventure de la primaire?
Eh bien, le PS semble faire en tout cas un pas plus clair vers cette initiative de primaire à gauche. D'après Michel Wieworka, les socialistes se sont engagés ce matin à participer au comité de coordination mis en place par les personnalités et les politiques qui ont lancé l'appel de l'IB début janvier. Le PS sera tenu au courant des débats qui se poursuivent d'ailleurs ce soir à 20h à Besançon. Débats citoyens comme la semaine dernière à la Bellevilloise à Paris. Thomas Piketty et ses amis semblaient donc tout à l'heure enthousiaste. Pour eux, le processus est bel et bien lancé. Côté Solferino, on affiche effectivement une attitude bienveillante. C'est le mot utilisé d'ailleurs par le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Les socialistes rappellent qu'ils sont d'accord pour cette primaire sans condition préalable. Ils voudraient aussi créer une charte, sorte de règlement qui dirait tout simplement que derrière le gagnant se rangerait toute la gauche. Au final, c'est une petite victoire de la stratégie du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis pour préparer 2017. En plus de cette primaire sur laquelle il semble visiblement vouloir s'appuyer. Il lance demain un nouveau site internet pour faire le bilan des socialistes à la tête du pays et dresser des perspectives. C'est ce qu'il appelle ses cahiers présidentiels qui s'intègrent dans la grande alliance populaire qu'il est en train de mettre en place. Il s'agit d'instaurer une nouvelle dynamique à gauche en renouant le dialogue avec notamment la société civile. Reste maintenant à savoir comment le président de la République va se positionner par rapport à cette nouvelle dynamique. François Hollande qui sera sans aucun doute interrogé ce soir sur ce point par France 2 et TF1.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg, Jean-Claude Amezen, on va parler de la santé dans un petit instant, mais quand même là-dessus, ça vous intéresse cette primaire à gauche? Vous n'avez pas signé l'appel?
Alors, je n'ai pas d'opinion particulière sur la primaire. Ce que je pense qui est important dans notre pays et qui existe dans d'autres, en particulier en Europe du Nord, c'est une conception du débat, de la réflexion, qui permettent de faire émerger des idées nouvelles. Et pas simplement d'opposer des idées préétablies. Je crois que dans notre pays, on a l'habitude des débats comme juger de la validité d'idées qui sont déjà élaborées. Y a des pays, il y a des modalités, les conférences de citoyens, d'autres façons de réfléchir, où des gens d'horizons différents essayent de réfléchir ensemble pour faire émerger des idées nouvelles. Et je crois qu'on a besoin de ça dans notre pays.
Et c'est à cela, sans doute, qu'il faut être effectivement particulièrement attentif.
France Culture, 12h45, suite du journal avec la grande conférence de santé organisée à Paris par le gouvernement. Elle a été annoncée en mars, au plus fort de la colère des médecins. Cette réunion est l'occasion, selon Manuel Valls, d'annoncer des réformes à court terme et de préparer des évolutions à plus long terme pour les professionnels.
Oui, plus de 300 personnes représentant donc les étudiants, les médecins, infirmiers, pharmaciens se sont retrouvées ce matin au Conseil économique, social et environnemental. Il y a quand même quelques grands absents, les principaux syndicats de médecins libéraux qui vont organiser, qui organisent aujourd'hui même, donc le même jour, leurs assises de la médecine libérale, ultime pied de nez sans doute au gouvernement. Des annonces donc devraient être faites, mais ce sera probablement cet après-midi avec l'intervention du Premier ministre. Ce matin, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a quand même dit qu'elle entendait les inquiétudes des professionnels de santé et qu'elle souhaitait donc faire évoluer à la fois les conditions d'exercice du métier et des formations. Aurélie Kiffer.
Oui, Marisol Touraine a évoqué les défis considérables auxquels notre système de santé doit s'adapter, évolution démographique, prévalence accrue des maladies chroniques, progrès scientifique et technologique et nécessaire maîtrise des dépenses. Pour répondre à ces enjeux, il faut innover dans la formation. La ministre de la Santé promet une adaptation plus réaliste et pragmatique du numerus clausus. La régionalisation va se poursuivre pour faire coïncider l'offre de soins aux besoins. Face à la diminution de la proportion de médecins libéraux, elle veut permettre aux étudiants et aux médecins d'accéder à des stages extra-hospitaliers et elle annonce un renforcement de la filière universitaire de médecine générale. À ses côtés, Thierry Mandon, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, souligne la nécessité de décloisonner les formations avec des socles communs entre études médicales et paramédicales, ainsi que des passerelles entre les métiers. Concernant l'amélioration des conditions d'exercice, Marisol Touraine cite un exemple, la protection sociale des médecins, et elle annonce un vrai congé maternité pour les femmes exerçant en libéral et ne pratiquant pas ou peu de dépassement d'honoraires. En conclusion, la ministre affirme sa volonté de dialogue et assure les professionnels de sa disponibilité personnelle et de son engagement pour valoriser leur travail. Un peu plus tôt, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins soulignait les fortes attentes de la profession. Les médecins sont sévères sur la gouvernance, constate Patrick Bouet. Ils sont prêts à s'engager mais ne veulent pas d'un millefeuille administratif. Sa conclusion, nous devons réussir ensemble plutôt que rester dans l'affrontement. Il suffit de nous écouter puis nous entendre et agir en commun.
Aurélie Kiffer, merci beaucoup. Alors un dernier mot là-dessus, Jean-Claude Amezen, de réunion à Paris aujourd'hui sur ce thème. Quel est le problème central selon vous de ce système de santé français?
Alors je peux vous donner les réflexions principales du Comité consultatif national d'éthique à propos de différents sujets. Moi je crois qu'il y a une nécessité d'une transformation profonde. Il y a une nécessité, ça a été évoqué, de faire en sorte que l'accès aux soins soit possible indépendamment des régions, donc de lutter contre les déserts médicaux. Il y a la nécessité d'une formation ouverte en effet. On s'en est aperçu en particulier en ce qui concerne la fin de vie, formation aux soins palliatifs, formation au traitement de la douleur, mais il y a des tas d'autres domaines dans lesquels c'est important. Et puis on a un système qui est basé dans notre pays sur la réparation et pas sur la prévention. On a un des budgets de santé publique les plus élevés dans le monde, 96% est dévolu au traitement et aux soins, moins de 4% à la prévention. Et donc vous savez que le préambule de 1946 de notre constitution garantit à chacun la protection de la santé. Et la protection de la santé, c'est pas simplement la réparation quand on est malade, ce sont les préventions. Et donc je crois que doivent être pris en compte les facteurs environnementaux. Pour vous donner un exemple, la pollution atmosphérique entraîne la mort prématurée de 40 000 personnes chaque année en France, 3 millions dans le monde. Des déterminants socio-économiques dont on sait de plus en plus qui jouent un rôle dans l'apparition et le développement de handicaps ou de maladies. Et puis la notion d'accompagnement. On a un système très efficace fondé sur l'hôpital, sur des soins ponctuels, mais de plus en plus d'études montrent que ce qui se passe entre ces moments ponctuels, la manière dont on est accompagné, dont on vit le système de soins, ce qu'on appelle la continuité des soins et de la prévention, joue un rôle essentiel. Donc je crois mettre la médecine et les efforts en termes de santé publique au service de chaque personne, plutôt que de travailler en considérant qu'il y a des points et des moments où le recours à un accès aux soins est nécessaire et c'est important. Mais imaginez un service de santé qui accompagne les personnes au cours de leur vie. Et en particulier, un exemple précis, l'accompagnement par exemple au domicile des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées, ce qui nécessite, ça va au-delà de la médecine, de rendre par exemple les appartements et les habitations accessibles aux personnes handicapées. Donc vous voyez que une vraie réforme du système de santé, c'est une réforme des acteurs soignants, mais ça va au-delà.
Jean-Claude Amezen, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de la Grande Table. Nous interrogerons avec vous Arnold Munich pour son livre « Programmé mais libre ». Les marchés financiers mondiaux programmés et libres sans doute aussi sont toujours minés en tout cas par l'incertitude qui plane sur l'économie mondiale. Les places européennes plongées à nouveau ce matin de plus de 3%. D'ailleurs à Paris, le CAC 40 repassait très nettement sous les 4000 points à Hong Kong. L'indice avait reculé de près de 4% en clôture.
Le bilan du conflit en Syrie approche 500 000 morts, un chiffre donné ce matin par le Guardian. Le journal britannique, qui cite un rapport d'une ONG travaillant notamment avec les Nations Unies pour les réfugiés, ajoute près de 2 millions de Syriens blessés.
Oui, au total, ça fait 11% de la population syrienne qui aurait été tuée ou blessée donc dans cette guerre qui dure maintenant depuis 5 ans. L'offensive des forces gouvernementales syriennes, qui toujours appuyée par les frappes aériennes russes, prive d'accès à l'assistance humanitaire quelques 120 000 habitants de la province de Homs, dans le centre du pays. C'est ce qu'affirment en tout cas les Nations Unies, qui mettent en garde contre le risque élevé de famine, de décès dû au manque de soins médicaux dans cette région rurale. Pendant ce temps, à Munich se tient cette réunion entre les États-Unis et leurs alliés pour tenter de mettre un terme à cette guerre. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe fait savoir que son pays est disposé à discuter d'un cessez-le-feu en mars. La question devrait être au centre des discussions du groupe international de soutien à la Syrie, qui se réunit donc en marge de cette conférence internationale sur la sécurité. Valérie Krova.
Un cessez-le-feu, c'est l'une des principales demandes des opposants qui étaient venus à Genève pour les négociations de paix avant que celle-ci ne soit suspendue en raison de l'opération militaire qui est actuellement en cours à Alep. Il faut rappeler que la résolution 2254 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité en décembre prévoit, elle aussi, un cessez-le-feu resté lettre morte. Alors, est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour qu'un arrêt des combats soit appliqué rapidement? C'est toute la question. À Alep, les bombardements russes ont pour conséquence d'asphyxier les rebelles. Après avoir coupé leur ligne de ravitaillement vers la Turquie, le régime et ses alliés russes tentent de les isoler. Ils sont contraints aujourd'hui, ces rebelles, de reculer vers la frontière turque que Moscou cherche par ailleurs à sécuriser. Mais avant cela, le régime et ses alliés russes ont une autre bataille à mener, celle d'Idlib et de sa province frontalière de la Turquie, qui est sous le contrôle de l'armée de la conquête, une coalition de rebelles formée autour du front al-Nusra et de groupes salafistes. Or, cette bataille prendra du temps, sûrement plusieurs semaines. Alors Damas et Moscou veulent que la frontière turque soit fermée avant l'établissement d'un cessez-le-feu réclamé par le secrétaire d'État américain John Kerry, qui demande aussi l'arrêt des bombardements sur Alep. Autant de paramètres à prendre en considération et de sujets qui seront abordés à Munich entre Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et son homologue américain.
Valérie Krova, merci beaucoup. Le président turc Recep Tayyip Erdogan prévient que la patience d'Ankara a des limites. Il accuse les Nations Unies de faire preuve d'hypocrisie en demandant à la Turquie d'accueillir les réfugiés sur son territoire alors qu'elles ne font rien, selon lui, pour arrêter les violences qui précisément les font fuir de Syrie. On termine ce journal avec une question de société. Question de droit. Est-ce qu'Internet a sa place au prétoire? Eh bien non, répond ce matin la Cour européenne des droits de l'homme. Un juré britannique avait en effet été condamné pour atteinte à l'autorité de la justice. Il avait fait une recherche sur Internet sur l'accusé contre l'instruction du juge. Le juge qui soulignait l'importance de ne trancher l'affaire que sur la base de ce qui était vu et entendu précisément dans ce prétoire. La Cour européenne a donc débouté cette demande. Un juré doit se prononcer uniquement en fonction de ce qu'il voit et entend dans le cadre du procès. Quel est véritablement l'enjeu juridique, on pourrait même dire philosophique, de cette question, Antoine Marat?
Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été violé par le Royaume-Uni. Cet article 7, on peut le résumer à cette formule simple, pas de peine sans loi. C'est-à-dire que la loi doit être suffisamment claire pour éviter des condamnations et des sanctions arbitraires. C'est ce que la requérante reprochait à la justice britannique. Elle avait siégé en 2011 en qualité de jurée et elle était allée sur Internet pour faire des recherches sur l'accusé, contrairement à ce qu'avait demandé le juge au jury, qui avait pour instruction donc de se contenter des éléments produits pendant les débats. Et non seulement cette femme est allée faire des recherches sur le net, mais en plus, Elle a communiqué ces informations aux autres jurés. Le juge a été prévenu et le procès a été annulé. La jurée a ensuite été condamnée à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 fermes, pour atteinte à l'autorité de la justice. Et la Cour européenne des droits de l'homme vient de confirmer cette condamnation. Elle estime que le droit britannique était suffisamment clair, comme l'exige l'article 7 de la Convention. Certes, la loi doit définir clairement les infractions qui doivent être accessibles et prévisibles, mais cela n'empêche pas une part de jurisprudence qui permet une évolution progressive du droit pénal. On ne peut ainsi interpréter l'article 7 comme proscrivant une clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire. La Cour ajoute que c'est aux autorités nationales qu'il appartient d'interpréter la législation interne. Pour résumer, la Cour exige que la loi soit claire, ce qui n'empêche pas une part raisonnable de jurisprudence qui permet de clarifier petit à petit la loi.
Antoine Marette, pluie, grisaille, fraîcheur au menu météo, température 5 à 14 degrés cet après-midi, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.